France Inter.
À tout à l'heure.
La bande originale avec Leïla Kabouboudadi, avec Emma Beaujean, Lisa Delmoitier, Rebecca Malestra, Oldola, Tanguy Bassureau, Daniel Morin,
coucou,
et nos invités Alice Huidecourt et Louis Garrel.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Bienvenue Alice, bienvenue Louis, merci de venir nous parler de Couture, ce nouveau film que vous signez. Alice, c'est votre combientième ?
Cinquième.
Cinquième.
Ça beaucoup d'émotions.
Non, non, rien, tellement détendu. Il sort aujourd'hui.
Tout à fait.
Ce film sort aujourd'hui et on a eu la chance de le voir pour vous en parler avec Louis Garrel, avec Angelina Jolie. Ça, c'est évidemment l'événement parce qu'on se demande toujours comment les stars américaines acceptent de venir dans un film français. Une question qu'on s'était posée aussi sur Jodie Foster. Ouais, ouais. C'est ça. Ça a été difficile de la convaincre ou c'est le sujet qui était une évidence pour elle?
Ça semble bizarre de dire que c'était une évidence, mais
non, si
en fait, il y a eu une forme d'évidence. Je lui ai envoyé le scénario et elle était. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous liaient et c'est vrai que cette histoire, elle avait quelque chose d'un peu spécial aussi pour elle puisque
un écho dans sa propre histoire.
Il y avait des échos dans sa propre histoire et après, je pense qu'il y avait quelque chose d'exotique aussi à venir tourner en France.
Trois femmes, trois histoires, trois parcours avec au milieu Louis Garrel en dire faute, un peu réalisateur quand la réalisatrice est absente sur le tournage d'un film au moment d'un défilé de mode. Couture avec beaucoup de jeux de mots évidemment autour de ce terme couture, sur la réparation, sur l'opération, sur la mode également, mais on va prendre le prisme de la mode. Vos rapports à la haute couture, pour garder la vanne d'Amélie Perrier, Lisa Delmoitier. Est-ce que t'es déjà allé à un défilé par exemple?
Je un peu rapport amour-haine, j'aime bien la mode, je suis pas sûre que la mode en ait quelque chose à foutre de moi, c'est un peu ça le...
Oui. Ok, ouais. Et tu regardes par exemple les défilés?
Non.
Ok, très bien, t'en mets pas.
Je lis le magazine dans la salle d'attente.
Et ma Beaujean.
C'est un univers que je connais pas du tout, mais les gens qui en sont passionnés et qui m'en parlent avec passion, ça a l'air très intéressant. Et non, c'est vrai.
Est-ce que tu es déjà allé à un défilé?
Non, jamais. Enfin, pareil. Regarde-nous.
T'es pas obligé d'être bien habillé pour aller à un défilé.
Oui, mais non. Pardon. Okay. Non,
pas, et puis.
Mais c'est quelque chose qui m'attire, oui.
D'accord. Rebecca,
moi, j'ai un gros trauma avec la mode parce que ma mère m'avait obligée à aller à des castings quand j'étais petite. Elle voulait que je sois un enfant star. Elle a bien raté. Et en fait, j'avais participé à un casting. Et il y avait cette directrice de casting qui était très dure avec tous les enfants et elle m'a regardé et puis elle a dit toi ça marchera pas et j'avais 7 ans et
donc voilà.
Ouais, c'est raide.
Leïla,
j'ai déjà assisté à des défilés et je trouve ça absolument fou de se dire qu'en très très peu de temps il y a le travail de moi, c'est le travail qui est derrière qui m'impressionne,
les petites mains. C'est l'une des héroïnes d'ailleurs du film,
la pensée, la conception, la réalisation, ensuite la performance. En fait, c'est le spectacle qui m'intéresse dans la mode.
Ce qui est fou, on peut le comparer au sport d'ailleurs, c'est-à-dire dans le nombre d'heures et de temps
travail.
Et de personnes qui travaillent pour quelques secondes ou quelques minutes qui peuvent être soumises aux intempéries. Je pense aussi au doc de Victoria Beckham, était dans un stress fou parce que la pluie venait tout gâcher. On est aussi avec des intempéries dans votre
Vous ne me posez pas la question de
j'arrive,
la mode, de savoir si
j'arrive. Attendez,
moi,
j'ai pas fini.
Mais moi, je le connaissais pas non plus, en fait, la mode.
Daniel Morin,
alors moi, j'étais pas spécialement intéressé, puis j'ai regardé à la télé, j'étais fasciné par le défilé hommage à Jean-Paul Gaultier, c'était il y a 2-3 ans.
Qui était carrément l'histoire.
C'était fou.
Son Panthéon, ouais. C'est vrai, c'est un véritable spectacle. Tanguy, pas sûr.
Non, pas trop. Je vois bien que la mode est dans la rue même actuellement, parce qu'il y a des gens là qui défilent avec des Rangers et des croix celtiques, beaucoup, de plus en plus dans les villes. Donc voilà, je pense que je suis.
Et t'es jamais allé à un défilé?
Non, du tout, non, je regarde. Okay. Non, non, non. Par contre, je me souviens de ce film de Robert Altman, Prêt apporté.
Ah, c'est génial. Ouais, génial. Moi, avec un final, la
avec
robe
beaucoup,
de mariée.
Beaucoup de gens dedans.
Absolument, ouais.
Eh ben moi, ça peut surprendre, parce que j'ai défilé et j'ai même été l'égérie de la marque Cochonou. Ouais.
Tu as défilé
pour la marque Cochonou, c'était sublime. En petit
c'est
carreau
moi qui
rouge
vidéo.
Et blanc.
Ouais. Mais c'est pas possible. Toute ta vie est une caricature de ta vie.
Comment c'est possible ? Alors, non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas. Je suis, voilà, je suis pas.
Non, non. Et alors, j'ai animé. Enfin, j'avais un truc à faire pendant un défilé de mode. Et c'était il y a très longtemps. Et il n'y avait pas de loge en particulier, donc on m'avait dit ben, vous vous mettez là, vous attendez là, puis vous interviendrez au début du défilé, vous ferez un petit truc à la fin. Et donc je me mets dans un coin et là j'assiste à cette fourmilière, c'est-à-dire 3-4 personnes par mannequin important avec 5 tenues par fille et surtout l'absence totale de pudeur. C'est immédiatement dès qu'elle sortait du plateau, elle se déshabillait, elle se rhabillait, et évidemment en espèce de mal à la con, dès l'instant où on se retrouve dans ce genre de situation, on se dit waouh, toutes ces beautés, toutes ces femmes incroyables qui vont venir se déshabiller en 2 secondes. Et donc moi j'étais dans ma position en train d'attendre après avoir fait mon job, et évidemment je reluque, je mate et je regarde ce qui se passe. Et là, il y a une des mannequins, oui, une des mannequins qui est en train
de la police,
qui est en train de se déshabiller. Elle se déshabille, elle tourne la tête, elle croise mon regard et elle ne baisse pas les yeux. Et là, je me suis pris une espèce de honte immédiate. J'ai baissé les yeux, je me suis plus jamais retourné. C'est-à-dire, je n'étais pas.
J'ai plus jamais regardé une femme.
Non, en tout cas, non. Mais j'ai compris la honte en me disant que finalement, elle faisait pas gaffe. Je faisais partie de tous ces gens qui travaillent où elle se pose aucune question devant les maquilleurs, les coiffeurs, les habilleuses. C'est le rythme du boulot. Mais elle a senti que le regard, lui, n'était pas dans ce rythme-là, et ça a été une leçon pour moi. Et vous alors ? Et vous ? Non. Est-ce que vous avez Alice ?
Non, en fait, c'est
La haute couture.
Le film, c'est couture avec un S, c'est-à-dire toutes les blessures derrière la haute couture. Toutes
ce que
les
j'ai histoires. Dit, ouais.
Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas du tout ce monde et que j'ai été vraiment enquêtée pendant un an et demi à justement vivre peut-être les mêmes situations que vous.
Les petites mains, la dentelle.
Les petites mains, d'essayer de... Mais en fait, moi, ce qui m'a intéressée, c'est de mélanger... de confronter un personnage qui arrive à Paris, qui est aussi, parce qu'Angelina Jolie, elle joue aussi quelqu'un qui n'est pas de ce monde, qui vient faire une publicité pour gagner de l'argent et qui arrive dans ce monde.
Elle est réalisatrice, elle n'est pas dans le côté mannequin.
Elle n'est pas mannequin, elle était mannequin avant dans sa vie.
Là, elle est réalisatrice.
Mais là, elle est réalisatrice, elle arrive dans ce monde, c'est quelqu'un qui ne le connaît pas non plus. Et elle va apprendre une nouvelle. Terrible, la nouvelle d'un cancer.
Non, mais avant de rentrer dans l'histoire du.
Oui, mais c'est intéressant
du film,
parce que pour moi, en fait, le monde de la mode.
Quel rapport avant à la mode ?
En fait, c'est ça, c'est que le monde m'a intéressé juste parce qu'il était confronté à cet univers-là d'apprendre quelque chose de terrible, mais dans un univers de paillettes, de glamour. Et du coup, c'est pas ce monde en soi qui m'a intéressé.
Vous n'aviez jamais été
au regard de la maladie. Et moi, j'avais jamais été dans ce monde. Okay. Et j'ai vraiment. Pour le film, rencontrer toutes ces femmes pour essayer de regarder derrière les images parfaites de la mode, ce qu'était la vraie vie des gens qui font ces images, les mannequins, les couturières, tout ce qu'on appelle les petites mains.
Ouais, et puis
il y a beaucoup d'actrices qui jouent leur propre rôle.
Louis Garrel, quel rapport avez-vous entretenu dans votre vie à la mode ? Je ne parle pas du film, encore une fois, mais est-ce que vous avez, assisté à des défilés ? Déjà défilé ? Vous avez été géri ?
J'aimerais bien défiler, mais il ne m'invite jamais. Non, moi, quand j'avais 20...
Vous avez été géri ?
Et jury, oui, bien sûr.
Ouais.
Mais j'ai jamais défilé. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai 23 ans et j'avais réalisé un film qui est un moyen-métrage qui s'appelait Petit Tailleur. Et avec Léa Seydoux, qui devait avoir 22 ans, je pense. Elle n'était pas du tout la star qu'elle est aujourd'hui. Et dans le film, ça racontait l'histoire d'un garçon qui savait coudre, qui était tailleur, quoi, qui avait repris la petite échoppe. Et à un moment, il était tellement fou amoureux de Léa Seydoux que la nuit, il la mesurait. Et pour lui dire qu'il était amoureux d'elle, il lui fabriquait une robe.
Sur mesure.
Sur mesure. Et je m'étais dit, mais qui est-ce qui va faire la robe ? Et je sais plus comment, j'avais rencontré Karl Lagerfeld quelque part, et j'avais eu un peu l'audace de dire, est-ce que Karl veut bien me rencontrer ?
Entre deux robes, vous pouvez en faire une pour...
Alors on m'avait dit, viens dans la maison Chanel, à 17h, tu viens. Et donc j'étais arrivé dans cette espèce de petite maison qui est minuscule en fait, les ateliers de couture de chez Chanel, c'est vraiment minuscule.
C'est pas rue Cambon ?
Rue Cambon. Ouais. Et donc, c'est des ateliers historiques de Coco Chanel. Mmh. Et donc, j'avais attendu, comme ça, avec des gens qui étaient super gentils avec moi. Et tout d'un coup, les téléphones ont sonné et on dit « Karl arrive ». Et là, j'ai vu comme une espèce de ruche qui se mettait en branle. Karl est arrivé. Et donc, toutes les mannequins sont venues présenter la collection sur elle, portée, pas celle qu'il avait dessinée. Et ensuite, il est venu me voir, il m'a dit « Pourquoi vous êtes venu ?» Je lui ai expliqué l'histoire, il m'a dit « Je vous la fais, la robe. » Et du coup, il m'a fait le dessin, il me l'a filé, et ensuite est arrivée une petite robe blanche avec la dentelle noire comme ça sur le côté. Et je l'ai toujours, la robe, d'ailleurs. Enfin, je l'ai toujours, je l'ai perdue, je sais.
Non,
je sais plus où est-ce qu'elle est.
Collector.
Historique. Non, mais collector, surtout, il y a un plan dans le film où il y a Léa qui est sur les marches du théâtre de l'Odéon, qui porte la petite robe de Karl Lagerfeld. Donc,
il s'appelle comment le film? On peut le voir où? Il est sur Internet ou pas?
Oui, il est sur Internet. Ouais. Non, il est même en DVD, il s'appelle Petit Tailleur, avec Léa et Arthur Igual.
Alors pardon, c'est Petit Tailleur?
Petit Tailleur, le tailleur ailleurs. De... Voilà. Non, Petit Tailleur.
Petit Tailleur. On cherchait jeu de mots partout ici. Ouais. À propos de jeu de mots, voici Hold de la fan d'Alice et de Louis Garrel.
Je suis fan, fan, fan de Louis Garrel. Louis, c'est vital comme la Vugarel ou le Gougarel. J'ai compté, vous êtes mon deuxième comédien préféré, juste derrière Macron dans Top Gun avec ses verres fumés. Je suis fan, fan d'Alice Vinocourt. Long métrage et court métrage, belle carrière au long cours. Vos films Augustine, Maryland et Proxima sont beaux, même si leur nom dirait plus des modèles de Renault. Et vous êtes là ensemble pour aujourd'hui, pour couture. C'est sur la mode, mais ça rime plus avec coup dur. Notamment pour la comédienne et la Roumpf. La seule personne au monde à rimer avec Schtroumpf. On va tout schtroumpfer. Oh, je suis fan, fan d'Alice Vinocourt. Vous êtes né un 13 janvier, c'est vraiment un très beau jour. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, magique et si beau. C'est l'anniversaire de notre Tanguy Pastureau.
Ah, mais non.
You say it's your birthday. C'est pile et bonjour, ouais.
Merci.
On sait que c'est ton birthday. On va passer du good time. On n'allait pas oublier. Happy birthday to you.
Alors Tanguy, avec les copains, on prépare ton anniversaire depuis qu'on apprend que ça tombait pile cette année. Julien Santini a même failli revenir, mais bon, il demandait trop cher. Il n'empêche qu'on a deux cadeaux pour toi. Nagui t'offre une Tesla dont il ne sert plus. Et avec tous les autres, on s'est cotisé pour t'acheter des galettes bretonnes triple verre. Alors place à la fête.
On est là pour fêter Tanguy, Tanguy. On a du boulot, mais tant pis, tant pis. Alice et Louis sont contents aussi. Yeah. Birthday. Et juste après, on danse. Birthday. Oui, chance. Ouais. Birthday. Daniel va mourir, je pense. Tant pis. Birthday. Tout le monde danse. Ouais. Alice, vous dites l'idée d'un corps incontrôlable fascine. Vous êtes servi avec Daniel, tous les jours ça décline. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Joyeux anniversaire Tanguy.
Merci beaucoup.
On y a pensé.
Ce que j'adore, c'est que gentiment Louis Garrel se penche vers Tanguy, son anniversaire, et Tanguy fait pas du tout. Alors pour vous expliquer cette plaisanterie récurrente, pour mettre fin à cette plaisanterie, nous n'avons pas fêté le 27 ou 26.
C'était le 26 janvier.
26 janvier. Nous n'avons pas dans l'équipe fêté le 26 janvier l'anniversaire de Tanguy, qui nous l'a rappelé tous les jours. Et donc on a voulu tuer le game.
Tout le monde sauf les auditeurs.
Mais on ne pensait pas qu'en plus on allait pourrir l'antenne. Donc on a fait deux pierres, c'est ça. Une pierre deux coups.
De l'AF ce soir, attention aux trois baudets, opération Bretzel. Il reste 14 places, c'est énorme comme spectacle.
Alice Vinocourt réalise donc Couture avec Louis Garrel. Ils sont nos invités à l'affiche du film Angelina Jolie, Anière Aneil, Ella Rumpf, Vincent Lindon, Garance Marillier, Grégoire Collin, Aurore Clément, Yula Ratner à l'affiche de ce film. En effet, l'histoire de trois femme, celle d'une mannequin qui débarque à Paris en cachette de son papa. Elle a menti à son papa. La maman est au courant, le frère est en larmes au téléphone, il est en manque de nouvelles. Donc cette mannequin débarque à Paris sans trop savoir d'ailleurs dans quel monde elle arrive. Elle est extrêmement belle, fine, élégante, mais totalement pure. Elle n'est pas pervertie encore par le métier, en tout cas. Elle n'a pas les codes.
Ouais, c'est sûr que ça m'intéressait de que ce soit des destins de femmes qui se croisent et que ce soit un récit collectif où on parle de solidarité entre femmes. Et c'est vrai qu'elle est, vous l'avez dit, elle joue un peu son propre rôle puisque je l'ai rencontrée dans justement ces coulisses de défilé dont je parlais tout à l'heure. Et elle m'a confié son histoire et ce qu'elle raconte, c'est
qui a alimenté votre scénario, d'accord.
Exactement.
La deuxième personne est Christine, celle qui va coudre, se blesser, se fatiguer dans l'urgence de voir, comme Louis Garrel le racontait tout à l'heure, au centimètre, au millimètre près, construire, fabriquer une robe sur mesure en fonction des dimensions qu'on lui donne, avec le stress du délai, du timing, il faut rendre ce travail en temps et en heure.
Avec la superstition de la couturière, je suis allée chercher selon où on se pique, si c'est la main droite ou la main gauche, et quel doigt, et ça a une signification. Ouais. À chaque fois, on le voit dans le film, la main gauche, c'est le cœur, la main droite, c'est le travail. Le pouce, c'est la joie, l'index, c'est l'ennui, l'amour. Ouais. En fait, c'est une sorte de cartomancie juste avec l'outil de travail. C'est très joli.
Ouais, il y a beaucoup de superstitions dans les ateliers. Et d'ailleurs, ce qu'on raconte aussi dans le film.
Et dans les couleurs aussi, ouais.
Il y a dans chaque robe de haute couture, il y a un cheveu d'une couturière.
Ouais. C'est ce qu'on voit. C'est vrai, ouais.
Vous pouvez chercher si vous en avez. voilà. En fait, c'est toutes ces petites histoires qui m'ont vraiment intéressée, des histoires de la vie. On a tourné avec les vraie couturière des ateliers haute couture de la maison Chanel.
Est-ce que j'allais dire, la marque n'est jamais citée dans le film ?
Non, parce que je ne voulais pas faire une publicité pour une marque, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, je voulais qu'il y ait la vérité d'une vraie maison de couture.
Ça.
Et
ouais.
C'était émouvant de voir, de mettre la lumière sur ces femmes qui avait jamais été dans un film.
D'autant qu'on n'a que l'image de l'autre côté. On a l'image bling-bling, on n'a que le côté photo, papier glacé, photo peut-être retouchée, trafiquée, des milliers d'argent que cela coûte, voire des millions. On ne voit pas ces petites mains, on ne les connaît pas en tout cas, et sans elles, sans ce travail qui est très franco-français d'ailleurs, qui doit être une fierté au niveau mondial d'un savoir-faire, on ne le voit pas. Vous le mettez en valeur. Et je parle du travail franco-français parce que il y a entre guillemets l'étrangère, celle qui a quitté sa famille, restée aux États-Unis pour venir réaliser ce film qui doit ouvrir le défilé, incarné par Angelina Jolie, et qui, elle, dès les premières minutes du film, a un coup de téléphone de son médecin.
Exactement. Et vous avez parlé de ces centaines de milliers d'heures, c'est ça, moi, qui m'a frappée en observant ce monde de la mode, c'était de voir l'aspect éphémère, c'est que c'est tant et tant de travail pour quelque chose, un défilé qui dure 5-10 minutes. Et c'est comme la vie, ça passe très vite. Et donc, comme c'est quelqu'un qui est confronté à l'idée de sa mort, ça résonnait avec ça, quoi, cette idée que voilà, la vie
dans
passe
l'urgence.
Très vite. Le film, c'est vraiment sur la fragilité de la vie, et on a voulu tous ensemble célébrer.
Comme un sportif qui s'entraîne pendant des années pour quelques secondes d'un centimètre à courir, ou un match de boxe sur lequel il peut jouer sa carrière.
C'est aussi ça, la beauté de la vie, je pense aussi, c'est le fait que...
Le jaillissement, oui.
Ouais, c'est ça.
Il y a un autre personnage féminin qui est quand même une sorte de narratrice aussi.
Ouais,
c'est la maquilleuse.
C'est celle qui impose sa voix, c'est pas un hasard. D'ailleurs, la narratrice du film, c'est la maquilleuse. Mm. C'est celle qui cache les blessures, qui fait disparaître les plaies,
qui raconte a son journal.
Et qui raconte les histoires de chacune. Mm. Et qui soigne les âmes aussi.
Et il y a un homme au milieu de ça, vous, Louis Garrel. J'allais dire comment tirer son épingle du jeu, mais le jeu de mots était trop facile. Voilà. Qui, dans un premier temps, est l'assistant et l'exécutant, celui qui obéit aux ordres de la réalisatrice pour faire un film.
Oui, Alice, en fait, elle m'a contacté très peu de temps avant le début du tournage. Et donc c'était assez bien parce qu'on est arrivé. Je raconte toujours cette histoire, Alice, maintenant, faut que tu me pardonnes.
Non.
Elle l'a entendu beaucoup de fois. Non, elle m'a dit, viens au café. Donc je suis venu au café près de la scène. Elle m'a dit, voilà, je vais faire un film. Ça raconte mon histoire, mais je voudrais que tu le caches, que personne ne le sache. Parce que ça me...
Ouais.
Non, parce que c'est une expérience qui est étrangement un peu honteuse, l'expérience de la maladie. Et donc elle m'a dit, voilà, je te le dis à toi. Et donc je lui ai signé un petit contrat sur un bout de papier.
C'est
je
vrai,
lui ai dit,
en plus. Je l'ai toujours, d'ailleurs.
Le petit contrat.
Ouais.
Je te signe un contrat, je le dirai à personne, que c'est un bout de ton histoire. Donc je suis arrivé sur le plateau en ne connaissant ni Angelina Jolie et avec le secret d'Alice. Et donc il y avait comme une espèce de délicatesse comme ça tout au long du tournage. Et Alice m'a dit voilà, tu vas jouer le chef.
Visiblement le contrat
c'est rompu
parce que là oui,
en promotion j'ai tout vendu. Elle l'a fait elle-même. C'est pour ça que je me permets de le faire évidemment. Elle l'a raconté ensuite et je trouvais ça bien. Enfin, je trouvais ça ni bien ni mal. Je trouvais ça touchant pour les gens qui vont voir le film, ouais, que tu t'engages et que tu dises, à mon avis, voilà, c'est mon histoire et c'est aussi une manière pour...
Oui, parce qu'en fait, l'idée du film, c'est aussi d'accepter ses blessures, de dire que ça fait partie de la vie et de vivre avec ça et de dire qu'il y a aussi une beauté là-dedans. Et donc, ça me semblait normal aussi de partager, puisque l'idée du film, c'était ça.
Il n'y a que Louis Garrel qui savait. Il n'y a que Louis Garrel. Vincent Lindon savait en jouant son
rôle. Alors, Vincent Lindon, ouais, il joue aussi le rôle du médecin. Mmh. C'est vrai qu'il avait déjà joué un médecin dans un autre de mes films. Je l'avais
dit aussi. Il porte bien la blouse.
Il devait dessiner sur les seins d'Angelina Jolie comme un oncologue. C'est vrai qu'il avait assez peur aussi de faire ça. Quand on a présenté le film,
quand vous le présentez comme ça,
il a dit c'est pas un cauchemar non plus.
Voilà, c'est ça.
Il a eu pied dans ma vie. mais oui,
j'imagine le message au répondeur. Oui, bonjour. Est-ce que tu acceptes de tourner pour dessiner
sur les seins d'Angelina Jolie?
Je sais pas. C'est quel jour à quelle heure?
Figurez-vous que ça a été une grande préparation parce que justement Vincent Lindon, c'est quelqu'un pour qui les gestes sont super importants et du coup on a travaillé vraiment dans un service d'oncologie pour vraiment les dessins soient parfaits, mais voilà, en tout cas, c'est sûr que c'était émouvant en fait de travailler comme ça avec cette idée de il y avait quelque chose un peu de plus grand que nous qui était aussi cette cause du cancer et j'espère que ça touchera aussi d'autres femmes qui traversent ces épreuves de la maladie.
Absolument, et on va en parler évidemment.
En tout cas, nous,
ce que voulait faire aussi Alice, elle m'a dit voilà, le personnage principal, on lui annonce qu'elle a un cancer du sein, mais il faut absolument qu'on fasse des scènes sexuelles parce que du coup, on l'a jamais dans un film. La présentation du cancer, elle est toujours un peu pathos. Mmh. Et du coup, là, je veux qu'il y ait le désir sexuel qui naisse au milieu de cette situation-là.
C'est le cas parce que
il y a un élan de vie tout d'un coup.
Oui, il y a des scènes à la fois extrêmement érotiques et sexuelles, et d'autres qui sont extrêmement élégantes. Je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas pudique. Quand on est dans le milieu médical, c'est-à-dire qu'on se met dans ces situations-là, on n'est plus dans le côté voyeurisme. On est totalement en empathie avec Angelina Jolie et ce moment où elle vit et où ses yeux, presque dans un plan séquence, apprend l'information de ces métastases, de ce cancer, il va falloir opérer, c'est plus grave. Alors qu'au début, le médecin se veut un peu rassurant en disant non, mais c'est dans 80% des cas, tout se passe bien. Sauf qu'on est, même s'il y a 1% de mauvaises nouvelles, on peut toujours être du côté de ce mauvais pourcent. Donc il essaye d'être le plus rassurant possible, mais quand la mauvaise nouvelle arrive, on est totalement en empathie avec elle. La manière dont elle gère l'information par rapport à sa famille, la manière dont elle, finalement, elle ne le dit à personne, sauf à un inconnu, comme s'il fallait à un moment donné qu'elle le formule et qu'elle le dise.
Oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu en fait, mais j'ai voulu capter cette espèce d'état de sidération de l'annonce de la maladie, mais aussi montrer, je pense que ce qui est le plus dur dans l'épreuve de la maladie, c'est d'être enfermé là-dedans en fait, comme si ça écrasait l'identité, qu'on n'était plus que caractérisé par ça. Et d'ailleurs, vous parliez de la mannequin sud-soudanaise qui joue. C'est marrant parce qu'elle parlait, on l'entendait dans une interview où elle parlait de la guerre au Sud-Soudan et elle disait « J'espère que je serai une autre image de ce pays que celui de la guerre ». Ce pays du Sud-Soudan, maintenant, c'est juste, il est juste caractérisé par ça. Il y a plein d'autres aspects de mon pays. Et en fait, une femme, c'est pareil, en fait, parce que le cancer, c'est un peu une guerre, c'est une guerre intérieure. Mais on est caractérisé par plein d'autres choses. On reste une femme qui a un métier, qui a des enfants, qui a des amants,
qui a une libido,
une sexualité. Ouais. Et en fait, en plus, ces cancers féminins, ça touche aux attributs féminins. C'est des choses qui sont éprouvant à vivre, mais du coup, je voulais que le film échappe à cette qualification de film sur le cancer, mais justement l'inscrire dans cette espèce de tumulte de la Fashion Week, de gens qui viennent du monde entier, de cette tour de Babel.
Où l'apparence compte avant tout.
Où l'apparence compte avec tout, parce qu'on voit des filles qui arrivent, qui déjà à 23 ans sont considérées comme en fin de carrière, déjà plus très intéressantes pour le marché. Donc c'était vraiment de mettre le corps féminin au centre, et c'est ça qui était très beau avec Angelina Jolie, c'est que derrière l'icône d'Angelina, derrière la grande star, la méga star planétaire, elle s'est montrée, elle, telle qu'elle était vraiment, et dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, puisqu'elle a traversé ça aussi, elle l'a vécu dans sa chair, donc c'est quand même quelque chose de différent. Se couper les seins, c'est quand même quelque chose...
D'une manière préventive, hein, c'est ce qu'elle a voulu
préventive,
faire.
Préventive, mais sa mère et sa grand-mère sont mortes de ça, donc elle n'était pas froide par rapport au sujet. Et elle s'est montrée dans toute... je sais pas comment dire, elle montre qui est la vraie Angelina derrière la star.
Nous recevons tout à l'heure Émilie Moati, qui est oncologue. On parlera du cancer du sein. Ce n'est pas le seul sujet du film, même si c'est l'intrigue entre guillemets principale. Mais comme vous l'avez dit, il y a plein de facettes, plein de manières de vivre ce film, y compris sur une espèce de sororité aussi dans l'entente, l'entraide qu'il peut y avoir et dans le respect mutuel. Parce qu'on peut imaginer aussi ce monde de la haute couture comme étant du crépage de chignon, de la concurrence, de sales coups que peuvent se faire des mannequins par rapport à d'autres pour être la première. Or, elles sont beaucoup plus dans l'aide et dans le conseil et dans la bienveillance.
Parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est des portraits de femmes. Donc, c'est des femmes qui naviguent entre ces deux univers, l'univers de la maladie, l'univers de la mode. Mais ce n'est pas un portrait du monde de la mode, c'est un portrait de femmes donc, qui traversent ce monde de la mode, mais qui restent des femmes dans toute leur complexité. Oui. Et du coup, moi, j'ai voulu montrer cette solidarité. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous enfermés dans une sorte de solitude contemporaine. On est seul avec ses blessures. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. C'est cette envie de se reconnecter aux autres, d'essayer de partager les choses. C'est ce qu'on a essayé de faire avec ce film.
Et puis, on parlera aussi de la notion spectaculaire, de la lumière, de la manière dont vous avez réalisé. Parce qu'il y a aussi une mise en abîme. Il y a le film dans le film.
La fable,
Et la fable, les vampires aussi. Oui. Et les making-of de ces préparations. Je crois que même, je ne sais pas s'il y a une fashion week qui arrive ou...
J'ai vu des
constructions au Trocadéro qui sont totalement gigantesques.
Fashion Week femme, me dit-on.
Fashion Week femme, très bien.
Il y en a qui sont en régie.
Très bien.
Un jeune homme.
On parle donc de couture qui sort aujourd'hui au cinéma et voici Lisa Delmoitier. Lisa, vous n'auriez pas, vous, fait un film comme ça sur le cancer du sein et sur la haute couture?
Si. Si, j'adore être dans le rôle de la meuf qui doit venir faire des blagues juste après 5 minutes sur le cancer. Hey. Faut se farcir quand même le rôle de bouffon parfois. Très beau projet, cela dit, vous deux, c'est pas personnel. Mais je vous le cache pas, j'étais quand même plus à l'aise il y a 2 semaines pendant notre émission sur le marsupilami. Je crois qu'il a fait vérifier sa prostate quand même. Mais je vais vous dire, je crois que je vais oser être premier degré sur cette chronique. Parce que ce film parle notamment de cicatrices sur le corps de la femme, de seins souffrants, scarifiés. Et c'est un sujet qui me touche personnellement. Voilà. Alors je vous rassure, je n'ai jamais eu de cancer, je touche du bois. Mais plus jeune, je me suis fait percer les tétons.
Non.
True story. Donc je crois que je sais ce que c'est, la résilience. Okay. Bon, bien sûr, c'est très sérieux ce sujet. Et pendant Octobre Rose, je le mets sur mon t-shirt, la petite épingle avec le nœud. Mais pas trop près, du nibar. Sinon, j'ai des flashbacks du salon de piercing, comme un mec qui a fait le Vietnam. J'aime l'odeur du stérilisant à aiguille le matin. Oh. C'était une dédicace. Il est mort. En vrai, c'était plus profond que ça, cette histoire de piercing. Bon, déjà, littéralement, c'est profond le nichon. Hein. Alors, le transformer en émental, ça fait très mal. Surtout qu'après qu'il t'ait percé, le mec, t'as toujours ce moment horrible où tu te rappelles que merde, j'ai 2 nichons. Première fois de ma vie que j'aurais préféré n'avoir qu'une loche.
Non,
deuxième fois, en fait. Avant ça, il y a eu la fois où je me suis réveillée en gueule de bois chez un mec super en retard pour le taf. Je cherchais désespérément mon soutif dans la pile de nos fringues qu'on avait balancé la veille dans l'excitation. Tout ce que j'ai trouvé dans le tas, c'est sa kippa. Moi, je suis ton rabbin, mais avec ton demi-soutien-gorge, je ne peux pas aller bien loin. Non, mais pourquoi je dis que ce piercing était plus profond? Parce que je l'ai fait dans le but de me réapproprier une partie de mon corps hautement connotée au niveau de la féminité, mais qui, moi, m'a toujours complexée, mon pare-choc. Et ça a marché. Voilà, c'était le début de ma vingtaine. Bah, avec mes piercings, en fait, je me suis sentie pour la première fois hyper badass, je me suis sentie hyper sexy. Jusqu'au jour où un mec m'a léché les tétons et m'a dit: putain, tu goûtes la serrure.
Non.
C'est vraiment trop précis pour être inventé. Oui. Sur le film Couture, on l'a dit, le film ne parle pas que de boobs, hein, il se passe dans l'univers de la mode. Univers dont je me méfie, j'avoue. Je trouve que pour des gens si créatifs, les designers ont si peu d'imagination en termes de beauté. Moi aussi, je peux habiller Claudia Schiffer. C'est facile de rendre quelqu'un de beau, beau. Les paparazzi ont pris une photo d'elle en train de sortir ses poubelles, on dirait mes photos de mariage. Il dirait que je suis pas mariée. Enfin, que le chiffre sort passer poubelle, donc de toute façon, cette blague n'allait nulle part. Il y a des jours, je me dis, par exemple, j'adore Prada. Mais est-ce que j'aime Prada? Ou est-ce que juste je trouve sublime la fille dans la robe Prada avec son 1m80, ses yeux qui peuvent voir ton âme et des lèvres si rebondies qu'on y a amené les enfants en mercredi après l'école, ils adorent le trampoline. Moi je suis née dans les années 90, hein, décennie du anorexique chic. En 2007, Annie Oakley-Moss a déclaré en parlant du corps et du rapport à la nourriture, rien n'a meilleur goût que d'être mince. J'ai lu ça, j'avais 16 ans, ça a foutu en l'air ma relation avec la nourriture pour les 20 prochaines années. Et ça a foutu en l'air ma relation avec Kate Moss aussi. Du coup, je l'ai bouffée. Enfin, quelle horreur. Qui mange la nourriture anglaise, c'est dégueulasse. Bon, après, moi, ce qui me sauve toujours, c'est que si je fais régime trop longtemps, je perds ma libido. Et ça, c'est hors de question. C'est tout ce que j'ai, vraiment, mon précieux. Non, vraiment, je dis ça en rigolant, mais pas tant. La libido, c'est le désir, c'est une pulsion de vie que vous représentez dans le film, Louis. L'envie de l'autre, l'envie de plaire, ben, c'est un bon thermomètre du bonheur, c'est un bon thermomètre de la santé aussi, dans la vie. Donc, vive l'envie de vivre, vive l'envie de créer, vive l'envie de bouffer, vive l'envie de baiser. Ah putain, ça me donne envie tout ça. Quelqu'un aime la serrure?
Lisa Delmoitier. Mais c'est vrai, Alice, oui, de course, si on repense à ce qu'il y a dans le film. Non, mais c'est la force et la fragilité. C'est aussi ce qui vient d'être raconté.
Pardon, je vous dis juste, c'est Alice Vinocourt. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais en fait, comme vous le redites à chaque fois.
Vinocourt.
Ouais. Comme la vie, comme l'élan de vie. Exactement. Allez, yalla.
Vous avez raison, pardon. Oui, force et fragilité sont portées par tous les personnages dans le film. Essentiellement, Angelina Jolie, qui est à la fois...
Oui, parce que Angelina Jolie, c'est vrai que dans cette histoire d'amour avec Louis, il y a cette idée d'une sorte de pulsion de vie et de que c'est quelqu'un qui se
pardon,
laisse.
On dit oui, on dit pas vie. Non, excusez-moi.
C'est l'ego masculin.
C'est une vanne.
Confond toujours.
Non, mais c'est bon. Bref, comment revenir dans le. Non, mais en gros, c'est ça, c'est cette idée qu'elle est une sorte de combattante, qu'elle se laisse pas faire et qu'elle. Et Angelina Jolie, dans la vie, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est assez. Je sais pas comment dire, combattante, quoi. Et cette histoire d'amour, c'est aussi une sorte de manière de. Je sais pas comment dire, de se réapproprier son corps et.
Voilà, non, et de prendre en main son destin, c'est-à-dire c'est elle aussi ça. Elle redevient décideuse après avoir subi finalement. Elle est dans un état de choc. Elle subit les informations, d'ailleurs avec une indélicatesse qui n'est pas toujours propre à tous les médecins, mais une maladresse, on va dire, pensant qu'elle était au courant. Ouais. La manière dont on lui raconte son cancer, c'est comme si elle le savait déjà. Or, elle l'apprend d'une manière extrêmement violente. C'est un véritable choc.
Après, c'est pas vraiment une indélicatesse, mais c'est plutôt de c'est comme d'arriver
dans le médecin, dans une le médecin zone français où... pensait que le médecin américain lui avait déjà dit.
Mais il y a un médecin qui m'a dit ça une fois, il m'a dit, mais c'est comme au théâtre, on peut pas être bon tous les soirs au moment des annonces. C'est vrai, il faut se mettre aussi dans les chaussures d'un médecin qui doit annoncer ce type de nouvelles plusieurs fois par jour.
Ouais, il peut faire preuve de psychologie aussi, non?
Oui, mais il y a en fait l'idée de en fait, il y a cet état de sidération et il y a l'idée de mettre la personne en mouvement pour qu'elle comprenne qu'elle va devoir en fait mettre sa vie entre parenthèses. Et il y a quelque chose, oui, d'extrêmement violent. En fait, le monde du cancer, c'est comme un monde étranger quand on y arrive. C'est d'autres règles, d'autres lois. C'est comme la médecine d'urgence. Quand on arrive, en fait, il n'y a pas les précautions. C'est comme une sorte de manière de rentrer dans... Voilà, c'est des questions de vie ou de mort.
Et puis en plus, elle est confrontée à un tel réel qu'elle ne peut pas envisager autre chose parce qu'elle doit gagner sa vie. Moi, j'ai trouvé aussi important qu'elle soit toujours rattachée à
tous
ça.
Tous les personnages ont des problèmes d'argent.
Oui, à ce réel. C'est le réel, en fait, qui nous rapproche tout d'un coup de tous ces personnages.
Et c'est comme ça qu'elle explique à sa fille, je suis obligée de travailler. Et elle a un projet d'un long métrage qui va arriver aussi, auquel elle tient, qui est le projet d'une vie et qui risque d'être remis en cause. C'est... Et quand elle prend la main de son destin, là, elle vous cible Louis Garrel. Et vous êtes dans la situation de celui qui est un peu chaos debout aussi quand il se fait harponner par Angelina Jolie. Il y a un moment de stupéfaction.
Ah oui, il y a une scène comme ça.
Ouais. Oui, je sais pas.
Harponner, c'est le mot.
Alors, quel terme peut-il employer?
Une truite. Non, il y a une scène.
Non, mais comment vous lui avez expliqué l'état dans lequel il devait jouer, Alice, à ce moment-là? Dans le bar.
Moi, je les ai juste mis tous les deux dans le bar et après, j'ai laissé le harponnage se produire.
Le harponnage agir.
Non, elle m'a dit, il y a une scène comme ça que moi j'adorais dans le scénario où Angelina Jolie, qui vient donc d'apprendre une terrible nouvelle, se dit, ce type avec qui je travaille, tout d'un coup, c'est comme si elle le débuguait, ou je sais pas, tout d'un coup, elle dit, allez, j'ai envie d'en faire mon amant, quoi. Ce soir, il faut que j'en fasse mon amant. Et donc, elle me fait tout
il
un.
Il devient pas un objet, là.
Oui, non, prenez-le comme aussi... vous voulez. Et ce que je veux dire par là, c'est que.
Non, non, j'essaie de comprendre.
L'objet de convoitise,
l'état d'esprit.
Pas du tout, parce que justement, elle lui propose. Donc, il y a une scène au bar où elle me fait un long monologue et elle me dit, voilà, je voudrais qu'on rentre dans ma chambre d'hôtel, est-ce que t'es OK pour qu'on aille coucher ensemble?
Voilà.
Et c'est une chose généralement qu'on ne dit pas.
Oui.
On dit, est-ce que tu veux te boire un dernier verre? Mais là, elle lui donne le.
Elle est directe.
Elle est très directe.
Parce qu'il y a une accélération du temps aussi. Enfin, je pense que l'urgence, la maladie, ça change le rapport au temps et du coup, elle se dit qu'elle a. Il faut y aller.
Il faut aller à la pêche. Ouais.
Pourquoi vous souriez?
Non, pas du tout, parce qu'en fait, on parlait des médecins. Et en fait, moi, j'ai eu un accident à la main, donc il me manque un bout de main. Quoi. Et
de doigt.
De doigt. Et non, mais c'est absurde de penser à ça. Et en fait, ça a duré 3h30 l'opération. On a essayé de me refoutre mon. Et moi, j'étais trop mal. J'avais 20 ans, j'étais là, je perdais un bout de doigt. Enfin, c'était vraiment un cauchemar. Et le médecin, après 3h30, j'étais endormi, bien sûr, il est rentré dans la chambre. Je ne le connaissais même pas sa tête. Il ne m'a même pas dit bonjour. Il a dit, allez-y, ouvrez le pansement. Et là, il a regardé mon doigt qui était vraiment, qui avait pas une bonne tête, franchement. Et il a dit, ah putain, ça marche pas, putain. Il m'a dit 3h30, putain, boulot là, 3h, parce qu'il avait insisté, parce qu'il dit, je savais qu'il fallait pas le faire. Donc il a mis 3h30. Il m'a dit, ça marche pas le truc. Mais même pas ni bonjour, ouais, c'était super marrant.
On peut pas être bon tous les soirs, c'est ce que disait Alice.
On peut pas être bon tous les soirs.
Comme à la radio, je vous rassure. Couture sort aujourd'hui au cinéma. Voici Rebecca Maestra.
Nous autres, on se fréquente pas en dehors de la radio. Vous me connaissez quand Rebecca survolté qui vous en fout plein la gueule. Lisa, t'as encore un peu de sang sur ton pull. Mais faut savoir qu'à l'extérieur de ce studio, je suis à l'intérieur de moi-même. On peut vraiment me ranger dans la catégorie des gens étriqués et pathétiques qui disent impeccable quand on leur apporte pas la bonne commande. Merci quand on foire leur coupe de cheveux ou c'est moi quand Nagui m'appelle Vanessa. Vous voyez Jim Carrey dans The Mask, ce pauvre Stanley Ipkiss, introverti, complexé, merdique. Eh ben c'est JB, le rédacteur en chef. Mais non, c'est moi aussi, c'est moi. J'ai besoin du masque, du théâtre et de l'humour pour m'émanciper de mon statut de carpette parce que dans ma vie, je suis tapis. À l'antenne, je sors tout, mais en off, je suis off de chez off. En trois mots, petite, médiocre et sans intérêt. Je parle de ta nouvelle salle d'enregistrement, Nagui. Non, vous voyez, là, je vous chambre. Mais tout à l'heure, j'ai même pas osé dire au barista qui tirait mon café et qui m'a parlé 12 plombes du degré de torréfaction et de la note d'arôme de chaque putain de grain de café de son magasin que si je commandais un triple expresso à l'emporter, c'était dans l'unique but de déconstiper Leïla. Tiens, mon chou, ton laxatif. Je suis en train de me voûter comme une rose qui décède sur son comptoir tellement le mec est chiant. J'ai l'air encore plus morte que la feuille d'automne qu'il est en train de dessiner sur sa mousse de l'épistache. Et ce pauvre somnifère, il se met à ouvrir chacun de ses bocaux de caféine pour me les faire sentir, comme en 1800 quand on faisait sniffer des sels d'ammoniac au Maccabé pour être sûr qu'ils étaient vraiment morts. Et Red, je le suis, ainsi que les 15 personnes qui piétinent dans mon dos depuis qu'il nous décrit son café signature Frappuccino, Iced Blond, Guatemala, Roast, Pétasse, Caramel au lieu de nous le servir. Donc là, c'en est trop. Il y a un moment, faut devenir le fantomas de nous-mêmes, nous sauver du mal-être profond qui nous oblige à subir des situations pénibles qu'on n'a aucune envie de vivre, comme être assise à côté de Daniel. J'ai pas le masque vert de The Mask, mais j'ai un latte pistachio et mon tiramisu matcha. Ferme ton clapet de merde et moue-moi Starabica, connard! Si tu perds encore une seconde de ma vie à me faire un cœur en mousse, je prends le cul de ta cafetière balisée et je t'éclate le pif à coups d'octogone. Tu seras assorti à ton carrelage lit d'abeilles de bobo. Je suis en apnée, j'attends qu'une chose, c'est de me tirer. Je vais repartir de chez toi comme Corampouche quand elle ressort de sa cave. Comme le petit Grégory quand... Ah non, là, ça marche pas. Et la prochaine fois, tu m'enregistres dans ton fichier client et tu te mets à pianoter sans fin sur tes touches comme cette pédale de Chopin qui nous joue sa chienlit de sonate. Je me transforme en Shining et j'écris Red Room sur ton clavier en boucle avec ta gueule. Maintenant, Nagui, mon champagne et une valise de ton pognon. Louis Garrel, ton numéro. Daniel, je t'encule. Et Aldolaf, comment un smack?
Oh non! Oh
splendide!
Showtime! Rebecca!
Oui, pourquoi?
Une journée comme toutes les autres.
Sur les dents!
Non, je veux pas te dire.
Non, non, rien du tout, j'attends juste ce qu'on m'a promis.
Rebecca, sur scène?
Non, nulle Rebecca,
part. Ah, nulle part. Okay. Ici.
À la, non, sur, non, à la douche. À la douche,
chouette.
À la douche, j'adore. Ah. Couture est au cinéma. Couture sort aujourd'hui. Et la musique est une musique de film aussi. Il y a un film dans le film aussi. Il faut le préciser. Il faut le raconter aussi. Autour des vampires. Qu'est-ce que ça
oui, veut dire? En fait, c'était l'univers de la réalisatrice de Angelina Jolie, qui est une réalisatrice de films d'horreur. Parce qu'on trouvait que c'était intéressant qu'elle soit pas. Qu'elle soit dans un monde particulier et que ce soit pas. Parce qu'Angelina Jolie, elle est vraiment réalisatrice dans la vie. Donc il y avait beaucoup de points communs avec elle,
oui,
sa personnalité.
L'horreur
et le côté horreur, c'était pour qu'elle soit un peu comme marginale. Qu'elle soit pas justement, je le disais, dans ce monde de la mode, que ce qu'elle vienne d'un ailleurs. Voilà. Après, on a travaillé, la musique qu'on vient d'entendre, c'est la musique de Anna von Asphoff, qui avait fait aussi la musique de Revoir Paris, qui est une musicienne suédoise.
Voilà. Très bien, on va parler avec tout à l'heure Émilie Moati, oncologue donc. Alors, il y a Octobre Rose pour parler du cancer du sein, mais il faut en parler toute l'année, évidemment, du nombre de personnes concernées, du pourcentage de personnes soignées aussi, s'il y a de bonnes nouvelles. On sait de l'importance du dépistage et de la musique dans vos vies également. Alice Vinocourt, vous écoutiez au début des années 2000... J'aurais pu choisir Fashion de Bowie, mais en l'occurrence c'est Rock'n'Roll Suicide, Leïla.
Et plutôt que d'aller en cours, Alice, vous allez au cinéma. En gros, c'est ça, vous vous inscrivez, vous faites 4 ans de droit à SAS, en vous disant que je deviendrai avocate sans forcément suivre les cours, parce que c'est une passion qui est née quand, le cinéma?
Enfin, dans mon enfance, j'ai toujours regardé des films et j'ai toujours eu un rapport assez obsessionnel au cinéma, vivre un peu dans des films. Mais je pensais pas du coup en faire du tout un métier. C'est vrai, je voulais être avocate pénale.
Votre papa était dans la prod de doc, non, c'est ça?
De documentaire, ouais. Mais en fait, il a commencé au moment où j'ai commencé à faire du cinéma.
Ouais. Ok.
Il faisait des documentaires politiques. Enfin, il en fait toujours d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, j'ai eu ce moment où je pensais vraiment que j'allais être avocate pénale.
Ouais. Et quand vous parlez de la famille, justement, vous parlez de vos origines. Et du trauma sur lequel une partie de votre arbre généalogique s'est construit.
Oui, oui. On ne doit pas parler de ça, de la famille. Mais oui, c'est vrai que le trauma, c'est toujours un peu dans l'ADN de mes films. J'ai l'impression que le cinéma, c'est une sorte de langage aussi pour exprimer des émotions ou des sensations. Pour moi, ça doit être une expérience un peu physique
et de catharsis, ouais.
Pour lesquelles il n'y a pas de mots, et de catharsis et de libération. Enfin, pour moi, le cinéma, c'est un peu un art consolateur.
Louis Garrel, dans ces années, vous écoutiez Serge Reggiani.
Lélo était loin de Paris.
Pourquoi choisir ce titre, Reggiani?
Non, j'ai goûté ça.
C'est vrai?
Non, j'ai goûté ça, mais comme maintenant, en plus, il y en a partout, des loups qui arrivent et tout ça, je trouve ça bien.
Et c'est d'actualité avec l'image, évidemment, que porte cette chanson, autre
ouais.
que les loups au sens premier du terme. Que se passe-t-il dans la vie de Louis Garrel, Leïla?
Ceci est mon corps. Vous vous souvenez de Rodolphe ouais, Marconi? C'est votre premier rôle,
oui.
En fait, avec un casting très riche, Jane Birkin, Annie Girardot. Mélanie Laurent aussi, je crois.
Oui.
Vous avez quel souvenir de ce tournage-là?
Ah bah d'avoir rencontré Jane Birkin, ça c'était très impressionnant, parce que j'étais allé chez elle rue Jacob, c'était là où elle habitait. Je pense qu'elle avait habité aussi avec... elle n'avait pas habité là avec Gainsbourg. Et en fait, j'avais le trac énorme de la rencontrer, je devais avoir 17 ans, et j'étais arrivé chez elle, et en fait, elle avait parlé pendant une heure, ce qui était assez génial, et elle m'avait dit... Non, elle m'avait dit deux, trois trucs. À la fin du tournage, elle m'avait offert un agenda en me disant le même que Serge, tiens. Donc ça, je l'ai toujours, l'agenda.
Classe.
Et ensuite, ça vous concerne aussi, Nagui. Elle m'avait dit, tu vas voir, les petits nez, ça vieillit très mal. Et les gros nez, ça vieillit très, très bien. Et voilà.
Ah, je me sens mieux d'un coup.
Mais est-ce qu'elle avait toujours raison, Jane Birkin?
J'ai un mot qui me vient là, mais je ne dirai pas.
Je sais pas.
Laissez-nous rêver. Non,
elle a toujours raison, Jane Birkin,
bien
évidemment.
Sûr.
On espère, en tout cas.
En 2006.
C'est toi, hein.
T'es pas à la douche, ça? En 2005, Alice.
Titre.
Eminem et Lose Yourself.
One shot.
Alice Vinocourt, qu'est-ce qu'elle évoque cette chanson? À quel moment vous l'écoutiez en particulier, en 2005?
Ou dans, 2005 quel,
ou dans, quel, état, ou dans quel état d'esprit?
Non mais moi j'adore vraiment le rap, j'écoute beaucoup de rap dans la vie, et ce moment d'Eminem, c'est assez iconique, cette scène de la battle où il commence à rapper sans suivre le beat et à cappella, en fait. Et ouais, c'est quelque chose que je trouve beau, en fait, cette rage et cette révolte.
Et 2005, c'est votre premier court-métrage, Alice Kitchen, qui raconte l'histoire d'une jeune femme en cuisine qui doit mettre des homards dans de l'eau bouillante encore vivant. C'est ça,
en fait, si je le pitch comme ça.
Ça s'appelle tuer un animal. Hein.
Ça s'appelle cuisiner, monsieur.
Il est vivant. Elle prépare un repas pour son mari. Et pendant, c'est vrai, 15 minutes, elle essaye de tuer les homards sans y arriver. Elle finit par les électrocuter dans la baignoire. Et
pourquoi?
Voilà. Pourquoi? Elle quitte son mari à la fin. Voilà. Okay. Non, c'était.
Il y a toujours une part de vous dans tout ce que vous...
On dit que c'est une catharsis.
Je vois souvent des homards, mais c'était aussi une libération, ça, c'est sûr.
Omar l'a tué.
Omar mal tué. Omar. vous écoutiez quant à vous trop tard.
Jamais.
Louis Garrel. Bande originale du film La peau douce.
Georges Delerue.
Ouais. C'est l'entrée au conservatoire, Leïla.
Ouais, entrée au conservatoire où vous avez donc déjà une expérience, vous avez déjà tourné avant de commencer vos classes. Est-ce que vous êtes reçue ou perçue avec tendresse et gentillesse, justement,
au conservatoire?
Ouais.
Ben, j'avais 18 ans, j'étais un tout petit peu trop jeune, mais ouais, c'était très bien. Même si c'était un moment difficile dans les... Parce qu'on a tellement rêvé du conservatoire, ouais. On s'est tellement préparé, parce que j'avais commencé à me préparer vers 14-15 ans, parce que je voulais vraiment le faire. Et du coup, quand on arrive, toute la promotion, on est tous un peu déçus parce qu'on pense qu'on va rentrer dans l'école de fame, que ça va être une vie trépidante, incroyable, on n'aura pas de temps mort et tout ça. Puis en fait, il faut faire comme au conservatoire d'arrondissement, il faut juste prendre des scènes, travailler, puis on a juste la chance d'avoir des professeurs qui sont géniaux. Moi, j'ai eu...
Et avoir des boulots à côté pour aussi subvenir à aussi, la vie de tous les jours.
Ouais, exactement. Enfin, moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je vivais encore? Non, je ne vivais plus chez mon père. Non, j'avais travaillé du coup, j'avais déjà tourné un film, donc j'avais un petit peu tout de côté, mais j'avais de la chance. Mais non, toute la promotion, c'était un moment très bizarre. Mais Gérard de Sarthe, qui était mon professeur, par exemple, qui était mon idole quand j'avais 14 ans, Muriel Mayette, qui était une actrice de la Comédie Française. Et après, il y avait Nicolas Maury, qui était avec moi, qui ensuite a joué dans 10%, qui était vraiment un type complètement fou et passionné, marrant. Non, c'était à la fois un très bon souvenir et en même temps très angoissant, je ne sais pas pourquoi. Parce que tout d'un coup, toute la promotion s'est mise en rage contre Brigitte Jacques-Vachemann, qui était ma professeure. Et moi, j'ai un côté bon élève, je l'aimais bien. Elle a démissionné, elle a dit « Votre théâtre n'est pas le mien, au revoir. »
Wow.
Et là, Eric Ruff a débarqué, a repris la classe, qui était directeur de la Comédie Française après, qui a été un professeur aussi génial, qui a joué le cardinal de Richelieu dans Les Trois Mousquetaires. Oui. Quand je faisais le roi, d'ailleurs, c'était mon professeur qui était mon cardinal. Ouais, je raconte des trucs pas très intéressants, mais c'était ça.
On apprend beaucoup.
On est en roue libre.
Alice, vous avez eu un César pour Mustang. Il y a les Césars qui arrivent la semaine prochaine. Ouais. Quand on a un César, on fait partie de l'Académie, on est forcément à la cérémonie, qu'on soit ou pas en compétition, on fait partie du club, entre guillemets.
C'est marrant parce que quand j'ai accouché de ma fille, j'ai eu une césarienne et on m'a dit « ça y est, vous êtes césarisée
».
Un autre type de César, mais c'est
une couture de plus.
C'était une autre couture.
Ouais.
Et c'était quoi votre question?
Si, bah, tous les deux, vous avez eu des Césars, donc est-ce qu'on est concerné particulièrement, différemment en tout cas, quand on l'a reçu, au-delà de simplement faire partie de ce métier, de la grande famille, du cinéma français et ainsi de suite?
Non, pas spécialement. Après, c'est le truc rigolo qu'on fait tous ensemble. On regarde les Césars avec des copains ou seuls, si on n'a pas, beaucoup d'amitié pour les
gens. Et là, jeudi prochain, vous serez où pour les Césars?
Je sais pas encore dit. J'aime bien l'improvisation dans la vie.
Alice?
Moi, je serai à Dublin pour présenter Couture.
Très bien. Parlons et merci à Émilie Moati de nous avoir rejoint. Vous êtes oncologue médical spécialisé dans le cancer du sein. Ça concerne combien de personnes?
Alors aujourd'hui,
hommes
comme femmes, ouais. Effectivement. Donc aujourd'hui en France, il y a 61 000 cas diagnostiqués par an de cancer du sein. Donc ça représente à peu près un tiers de l'ensemble des cancers chez la femme. Et on a pour habitude de dire, si on calcule, ça fait à peu près une femme sur huit qui, au cours de sa vie, aura eu un cancer du sein. Et effectivement, parmi ces cancers du sein, il y en a 1% qui concerne les hommes.
Alors, on dit que c'est, entre guillemets, je ne sais pas si l'expression est appropriée, mais enfin plus facilement repérable chez l'homme parce que on voit tout de suite s'il y a une boule qui se forme ou pas, alors que pour les femmes, il faut ce dépistage. À partir de quel âge il faut ? Parce que là aussi, j'entends tout et son contraire. Ouais. Est-ce qu'il y a un âge où il faut aller ou il faut y aller systématiquement dès l'instant où on est adulte ?
Alors, il y a un âge où effectivement, il faut y aller, mais ça peut toucher presque un petit peu tous les âges. Alors, pas les femmes très très jeunes, mais sinon, l'âge médian en France du diagnostic, c'est 64 ans. Le dépistage organisé, il est proposé chez les femmes de 50 à 74 ans. On le sait, c'est une échomammographie tous les deux ans. Néanmoins, les cancers du sein, ça arrive aussi chez les femmes plus jeunes. Oui. Et à juste titre, aujourd'hui, la majorité des médecins généralistes et des gynécologues recommandent ce dépistage individuel à partir de l'âge de 40 ans. Mmh. Et ça peut également concerner des femmes encore plus jeunes, notamment en cas de mutation génétique, mais pas seulement. Et au-delà du cancer du sein, on voit chez les jeunes une augmentation de l'incidence des cancers en général. Donc ça, c'est un vrai problème de santé publique aujourd'hui.
Donc, pardon, concrètement, à partir de quel âge vous diriez qu'une...
La palpation,
palpation dès 25 ans, ouais, l'autopalpation, chez le médecin ou par soi-même. Et le dépistage, on va dire, hors facteur de risque.
On n'a pas besoin de s'y connaître, on n'a pas besoin d'apprendre.
Alors, il y a des signes qu'on peut apprendre.
D'accord.
Donc, effectivement, ressentir une boule dans le sein ou sous l'aisselle. Après, il n'y a pas que les masses ou les boules qui comptent. Il y a aussi potentiellement une modification de la couleur ou de l'épaisseur de la peau. L'apparition d'un écoulement mamelonnaire, notamment sanglant ou transparent. Ou au contraire une rétraction du mamelon, tout ça ce sont des signes d'alerte qui doivent faire consulter.
Écouter son corps, faire attention, dès qu'on a une question, dès qu'on a un doute, consulter.
Exactement.
Est-ce que ça veut dire que dès l'instant, je me suis surpris à dire souvent cette phrase, est-ce que plus vite le cancer est dépisté, plus vite il est soignable ou c'est une formule utilisée ?
Non, c'est vrai. C'est vrai, plus on dépiste tôt, mieux on soigne. Et également, potentiellement, on a accès à des traitements moins lourds si la maladie est moins avancée. Donc ça vaut le coup. Donc le dépistage au tout venant, je dirais 40 ans, hors facteur de risque généraux, l'autopalpation bien plus tôt. Et après, tous les signes cliniques doivent faire consulter, quitte à ce que ce soit rien, mais tant mieux si c'est rien.
J'avais l'impression que plus on était jeune et touché par le cancer, plus le traitement était fort pour éviter justement un retour possible et que c'était vraiment des doses qui étaient...
Alors pas forcément, mais c'est vrai que l'âge jeune, c'est un facteur de mauvais pronostic.
Ouais.
Et souvent, ce sont des maladies un peu plus agressives, mais pas systématiquement.
D'accord.
Il y a des patientes jeunes qui n'ont pas de chimiothérapie.
D'accord.
Par exemple.
Ouais. C'est pas un passage obligé, la chimio.
Pas obligatoirement.
La mastectomie, c'est un sujet, et Angelina Jolie l'incarne, le porte et a communiqué d'ailleurs, elle l'a fait avec une intelligence formidable, parce que plus on en parle, moins ça devient quelque chose d'obscur, de bizarre, d'horrible, de moche. Est-ce que là aussi, quand il y a des terrains favorables, c'est un conseil que vous donnez à vos patientes ?
Alors des mastectomies, on en fait moins qu'avant. Mais il reste deux grandes indications. Donc soit on est dans une situation de traitement, donc curative, et dans ces cas-là, donc c'est des patientes qui ont un cancer, et il y a soit c'est indiqué de manière formelle pour des raisons médicales.
On opère, on enlève, et on répare.
D'accord. Après, ça peut aussi être pour des raisons cosmétiques, esthétiques. C'est pas pareil d'enlever une tumeur de 5 cm sur un bonnet A qu'une tumeur d'un centimètre sur un bonnet E. Donc parfois, tout simplement, pour ces contraintes-là, c'est plus satisfaisant pour la patiente d'avoir une mastectomie, donc une ablation complète du sein, plutôt qu'un traitement conservateur, puis une reconstruction. Et après, parfois, il y a des patientes qui préfèrent aussi cette solution-là. À noter que c'est pas parce qu'on enlève le sein qu'on enlève le risque que la maladie revienne, soit dans l'autre sein, dans le corps.
C'était ça la question. Est-ce que si on fait une mastectomie préventive, c'est-à-dire de dire je veux éviter d'avoir un cancer du sein, donc je fais cette ablation et cette reconstruction du sein, ça ne veut pas dire qu'on risque pas de l'avoir ?
Alors, les mastectomies préventives ou de réduction du risque, elles sont proposées chez les patients, soit qui ont une mutation identifiée qui les expose à un risque plus important de cancer du sein, soit même en l'absence de mutation, s'il y a une histoire familiale très à risque. Dans ces cas-là, on peut le proposer. Et on diminue drastiquement le risque de cancer du sein. Le risque zéro, il n'existe pas, parce qu'on ne va pas non plus racler jusqu'à l'os toute la glande.
Donc, on diminue toujours trop bien, en gros.
Ah bah, plus de 99% dans ces cas-là. Oui. Mais on ne va pas faire des mastectomies à toutes les femmes, après, parce qu'il n'y a pas de raison particulière. Oui.
Cancerdusein.org, c'est le site internet sur lequel on peut avoir toutes les réponses à ces questions. Vous travaillez à la clinique Ambroise Paré Hartmann, et également à l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci Émilie Moati d'être venue nous éclairer sur ce sujet. Merci mille fois. Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu nous parler dans la prochaine demi-heure ?
Des jeunes, une étude effectuée sur 5000 jeunes explique qu'ils veulent du calme et non pas d'ambition. Je suis donc jeune.
Très bien. Louis Garrel et Alice Vinecourt sont nos invités pour parler de couture. Le film sort aujourd'hui au cinéma. La bande originale, c'est avec les Isabelle Moitier, Emma Beaujean, Rebecca et pas Vanessa Balestra, Olvelas, Jean-Guy Pachereau, Daniel Morin.
Coucou Lisa.
Et nos invités Alice Vinocourt et Louis Garrel.
La bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
Couture, l'histoire de trois femmes jouées par Angelina Jolie, Agnière Aneil et
La Reuf.
Alors, Ella Rumpf moi je cherchais dans ces Garance Marillier.
Garance Marillier.
Voilà, ce sont les trois que l'on suit. Et en effet, tu as raison, Ella Rumpf et Angèle, la maquilleuse, qui nous montre une forme, j'allais dire, de précarité, parce qu'elle est dans l'intermittence. Elle est maquilleuse, elle a été payée, pas payée. On lui demande de faire des heures en plus. Mmh. Et on la traite aussi comme une moins que rien. Elle a une urgence, elle a des choses à régler. Non, tu te tais, tu restes maquillant une de plus. Enfin, c'est extrêmement... je sais pas si vous l'avez constaté, ça aussi.
C'est sûr. J'ai rencontré aussi beaucoup de maquilleuses. Après, j'ai pensé aussi à moi, parce que c'est vrai que je me suis aussi identifiée à chacun des personnages. Et toutes, c'est un peu une partie de moi, et je pensais aussi à moi quand je commençais à essayer d'écrire des films, et qu'on me disait non mais faut pas écrire comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça.
Ah, le mec qui se fait payer pour la clasher sur l'écriture,
ouais, c'est de se faire clasher,
vous l'avez vécu ?
Oui, bien sûr.
Wow.
Mais je pense que tous les gens qui essayent d'écrire se font un moment ou un autre clasher, je pense que ça fait partie du truc.
Oui, mais en tout cas,
la maquilleuse, oui, elle essaye de un peu sauver son âme dans ce monde-là, et d'essayer de se réparer. Et
de réparer les autres, c'est ce qu'elle fait, en cachant des blessures, des pieds abîmés par des chaussures visiblement trop petites, des chevilles qui se foulent. On voit vraiment les coulisses, dans le sens réel du terme, de ce monde très glamour, très shiny, happy people, tout va bien et tout est formidable, et on vend du rêve. Sauf que derrière, ça ressemble plus à un cauchemar qu'autre chose.
C'est compliqué. Après, ces maquilleuses, c'est vrai qu'elles se...
Mais pas que, les mannequins
les maquilleuses
aussi,
les mannequins, ça montre en fait... Je me suis vraiment inspirée. On voit une mannequin qui vient de Zaporijja, qui est née à Zaporijja. C'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré dans les coulisses, quoi, qui venait vraiment de Kiev, qui prenait le train pour passer par la Pologne, pour arriver pour une Fashion Week. Voilà, ça m'a intéressée d'être dans le regard et dans le corps.
Et qui prenait des nouvelles de la guerre...
En Ukraine, mais qui en même temps était dans cette ambiance complètement glamour. Et du coup, j'ai l'impression que le monde de la mode, en fait, pénètre notre monde. Mais je voulais montrer comme le monde extérieur pénètre aussi monde de la mode.
Et ce décalage se fait aussi au niveau de la santé, au niveau de, justement, de nous ramener au fait d'être tous des êtres humains fragiles et égaux devant la maladie aussi, parce que là il n'y a plus, de statut ou de hiérarchie.
Oui, après il y a ce moment où Angelina Jolie se confie à une maquilleuse, justement, sur, sans spoiler le film, sur une table de maquillage. À un moment, c'est ces petits moments en fait d'échange comme ça, où c'est parfois effectivement, comme on le disait tout à l'heure, plus facile de se confier à un étranger ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Moi, c'est vrai que j'ai vécu des situations comme ça, par exemple, pour Revoir Paris. J'ai une fois rencontré comme ça une maquilleuse qui était venue pour me maquiller et qui m'a dit « Oui, je suis émue parce que, comme le film parlait des attentats, du Bataclan, elle avait perdu son amie dans les attaques. » Et elle a commencé à me raconter son histoire, et on ne se connaissait pas du tout. Et au bout de de 5 minutes, on était dans les bras l'une de l'autre et elle pleurait dans mes bras. Il y avait quelque chose en fait de fort dans cette rencontre, d'ailleurs, qui m'a aussi un peu inspiré ce personnage.
C'est peut-être plus facile de parler à quelqu'un qui ne connaît rien de nous, peut-être aussi.
Parfois, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve ça beau dans la vie, comme on peut partager avec des gens parfois qui font pas partie de nos vies.
Louis Garrel est l'élément émouvant, la libido d'Angelina Jolie, quand on se retrouve face à une star mondiale qui incarne aussi la générosité, le partage, elle fait partie de ces stars américaines qui accueillent, recueillent, partagent, donnent, sont extrêmement généreuses. J'imagine que toute cette aura doit quand même jouer lors de la première rencontre, même si vous avez rencontré de nombreux stars et ça continuera, mais il y a toujours aussi l'idée que l'on se fait de quelqu'un et de cette rencontre-là, les premières secondes, on fait des lectures, on fait des répétitions pour démystifier, ou au contraire, vous avez voulu garder une espèce de fraîcheur en arrivant sur le plateau le jour du tournage sans l'avoir rencontré avant.
Non, moi j'aurais bien aimé la rencontrer avant parce que j'aime bien rencontrer les acteurs avant de tourner, mais comme elle était à Los Angeles avant le tournage, du coup c'était impossible, donc on s'est rencontrés le premier jour du tournage, mais elles avaient, je disais, Alice et Angelina, elles étaient toutes les deux main dans la main pour faire le film, et du coup on se sentait très, comme si c'était elles qui nous invitaient, donc on se sentait accueillis. Et non, oui, on est toujours un peu impressionné la première fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on a vu beaucoup.
Même vous?
Bah oui, non,
non, mais je sais pas, vous pourriez dire, j'ai l'habitude, genre...
Quand j'ai vu Nagui la première fois.
C'est ça, avec son gros nez, voilà.
Il y a de l'espoir.
Exactement.
Couture sort aujourd'hui au cinéma.
Est-ce que c'est vraiment le mot employé?
Oui, je sais pas, après chacun fait comme il veut. Hein,
voici Tanguy Passion.
J'ai vu passer une étude concernant les jeunes. Les jeunes, ce sont ces personnes comme nous, mais avec le front plat, sans cernes et qui n'ont pas de bajoux. On dirait qu'ils ont naturellement des filtres Instagram sur la gueule. Tous ici, nous avons été jeunes. Oldelaf qui se trimballe de ville en ville avec sa guitare et un casse-croûte dans son baluchon, techniquement, l'est encore. J'ai moi-même été jeune. Bon, il y a longtemps, à la télé, il y avait 3 chaînes, personne ne s'épilait le pubis. Et la phrase clé dans les soirées, c'était « Allez, tu vas bien encore boire une 14e chope pour la route ?» On répondait « Mais enfin, tonton, j'ai 11 ans. » Vous ici, vous m'avez toujours connu âgé, mûr comme une poire à tarte. Mais j'ai été jeune, une jeunesse rangée. Hein. J'ai voté oui à Maastricht. Quand Doc Eddy Fool parlait de sexe, j'éteignais la radio, donc je n'ai jamais écouté. Et même au Monopoly, je respectais les règles. Une fois, j'ai volé 10 dans la banque, je me suis auto-mis en prison. Vous imaginez, au RPR, puis à l'UMP, s'ils avaient fait ça, on n'aurait pas eu un candidat en liberté sur 25 ans. Petite blague sur la droite qui me permet de récupérer l'équipe après 10 blagues sur la gauche. Moi, quand j'étais jeune, j'étais calme. Je voyais bien que les autres partaient en sucette, ils jouaient au Twister, tout nu à 4 grammes, et en scooter, il faisait YOLO avec la main juste avant de tomber. Et tout le monde validait ça. Les vieux disaient, il faut bien que jeunesse se passe. Je répondais, ok, mais enfin, Sébastien a pris le rond-point d'entrée de l'agglomération de Rennes à contresens, à vélo. Les vieux disaient, bon, est-il mort? Je répondais, non, mais enfin, il a plus qu'un bras. Les vieux disaient, bon, bah, il demandera à quelqu'un d'autre de décapsuler sa bière. Moi, les excès de la jeunesse, ça me paraissait aberrant. C'est pas que j'aimais pas m'éclater, parce qu'une fois, j'ai fait un mini-golf. Mais je trouvais ça cliché, cette injonction qu'avaient les jeunes à se retourner la tête. C'est mieux de faire ça à 86 ans. Je comprends Jack Lang qui disait « Les costumes, je paye pas, les dîners, c'est pour vous, j'ai frais, je veux 20 millions sur mon CCP demain. En bout de course, on s'en fout. Moi, à 86 ans, si Dieu et la DHEA me prêtent vie, je me lance dans le parapente ou le porno ou le pornopente du X dans le ciel à côté des cigognes qui verront ça et se diront alors ok, on se fait court-circuiter sur le marché de la fabrication des bébés. » Oui, celle-là je l'ai mise parce que j'ai réalisé que j'avais fait aucune blague sur les cigognes depuis le début de ma carrière et c'est pour ça que j'ai du mal à séduire le public alsacien. Vraiment, quand je me balade à Strasbourg, personne ne demande à faire un selfie avec moi, comme à Perpignan ou à Dunkerque. C'est très grand l'Alsace. Pourquoi je vous parle des jeunes? D'abord parce que j'ai regardé les dernières victoires de la musique et j'ai réalisé que je n'étais plus jeune, au fait que je connaissais une seule personne, Cyril Ferraud. Quand le seul que tu connais, c'est parce que tu l'as vu sur la carte au trésor dans la baie de Somme, et que tu as trouvé ça super joli, la baie de Somme, c'est que la fin n'est pas loin. Je voyais hein, des êtres chanter des trucs que je ne comprenais pas. Certains de mon âge ont déploré le côté aguicheur des chanteuses, moi, pas. Mais enfin, vous êtes sérieux. Quand moi j'étais jeune, les plus grosses vendeuses, c'était Sabrina, Samantha Fox et Love Amour. On n'a pas de leçons à donner. J'ai tellement vu de tétons entre 14 et 17 ans que par réflexe, quand en concert j'ai vu Bruel, j'ai crié à poil. Il a répondu OK, bon, c'est Bruel. Hein, et à un moment, pendant les victoires, il y a eu une rétrospective. La preuve que je suis vieux, je dis rétrospective. Est-ce qu'Emma Beaujean, qui est jeune, elle dit rétrospective? Non, elle dit on va faire un retour en arrière, ma vie, genre. Et dans cette rétrospective des 40 ans, on voyait Souchon, Eddie Mitchell, Patricia Cazzazzi, et moi je chantais. J'ai réalisé qu'en musique, j'aimais les blancs entre 60 et 80 ans. J'ai la vie d'un identitaire fan de variété. À la prochaine étape, à mon avis, ça va être un stage de survivalisme dans les bois en chantant Calogero. Pourquoi je vous parle de mon rapport à la jeunesse? Parce que l'étude qui a été faite sur 5000 personnes sondées révèle que les jeunes veulent plus de calme, ont moins d'ambition et ne veulent pas d'enfants. Pas d'enfants, je comprends. Souvenez-vous de ce que ce week-end Juju m'a fait vivre dans le train Limoges-Paris. Oui, je me cite moi-même dans le cadre du programme Un jour, un égo, lancé par Fabrice Lucchini et Iseult. Moins d'ambition, c'est normal aussi. Travailler n'a pas de sens, c'est juste du temps perdu sur celui qu'on pourrait passer à regarder tous les épisodes de Columbo depuis le début, parce que j'étais Vébraise et TMC, donc je les regarde. En fait, c'est le « une vie plus calme » qui m'a surpris, parce que nous, jeunes, on n'avait pas envie de calme, si ? Je sais pas, moi je regardais Trainspotting, je me disais mais c'est ça la jeunesse. Puis je regardais attentivement Trainspotting, je me disais en même temps, si être jeune c'est faire ses besoins sur soi parce qu'on est en manque d'héros, bof. Bon, en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'on m'obligeait à me comporter comme un jeune alors que je l'étais, alors qu'aujourd'hui je pourrais végéter chez moi, à m'interroger sur ma santé mentale et je serais dans la norme. Je suis pas né à la bonne époque, comme Gérard Depardieu, qui aurait fait un très bon pote de Rabelais. Ils auraient mangé des biches vivantes en flatulant contre des femmes au bassin fécond. L'étude explique que les jeunes privilégient l'équilibre libre personnel, chose que nous, on faisait pas. Hein, moi, j'ai écouté le premier album de Suède 1000 fois en mouchant dans la mèche de cheveux plus longue que j'avais devant. Bon. 59% affirment qu'ils feront toujours passer leur bien-être physique et mental avant toute contrainte. Et c'est ça la différence. Je crois que nous, les moins jeunes, nous avons grandi dans un monde où nous devions nous adapter à celui des adultes, leur vision du travail, leur goût de la performance, le chemin qu'ils avaient tracé pour nous, alors que les jeunes aujourd'hui, me semble-t-il, tracent leur propre chemin et inventent leurs règles. C'est à eux que je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
La tournée Pastureau continue. Il sera à Nîmes le 6 mars et le lendemain à Palavas le 7 mars.
Aujourd'hui au cinéma Couture. Cette chanson fait partie aussi de la bande originale de ce film, avec tout ce que l'on peut imaginer comme métaphore autour de la rose, de sa beauté, de ses épines, du sang qu'elle peut faire couler ou des blessures. Couture. Cette métaphore est utilisée d'ailleurs que ce soit pour la haute couture que pour l'opération chirurgicale subie suite au cancer du sein. D'autres événements culturels, Leïla?
Oui. On fait maintenant les jingles à la bouche. C'est extraordinaire. Elle a 43 ans et elle a fait la une de l'actualité. De qui est-ce que je parle d'après vous?
43 ans.
43 ans, française. La une de l'actualité ce week-end.
Française.
Elle est française, absolument, et c'est important dans l'histoire.
Ok, une femme française, donc on élimine.
C'est dans le spectacle. Dans le spectacle.
Est-ce que c'est une personne ou c'est un...
C'est une personne, une personne réelle.
Une actrice?
Non, pas une actrice. C'était ce week-end.
Une médecin.
Samedi, en particulier, on a beaucoup parlé d'elle.
Théodora.
Non,
ah pardon,
43 ans. Pas 43 ans. Non, c'est pas aux Victoires de la musique. Elle a fait la une des journaux parce qu'elle entre dans l'histoire.
Ah, l'espace ionote.
Absolument. Ah. Sophie Adenau. C'est le retour d'une Française dans l'espace après 25 ans. 25 ans après Claudie Aigneré, qui a été d'ailleurs son déclic. Elle l'a vu, elle avait 14 ans et elle s'est dit, mais moi aussi, je veux absolument faire ça. Elle est d'ailleurs devenue son mentor entre temps. Sophie Adenau, qui a donc parcouru 34 heures de temps pour rejoindre l'ISS, va rester 9 mois là-haut pour une mission. Elle va partager son périple avec des radios amateurs, parce que les radios amateurs ont joué un rôle très très important dans la conquête de l'espace, et donc elle va poursuivre cette tradition. C'est un rêve de petite fille. Alors, je vous en parle forcément, Alice, parce que je pense à Proxima, je pense à ce personnage incroyable avec sa fille, un des films que vous avez réalisé sur ce sujet. Là encore, des femmes rares, des femmes dans des univers assez masculins ou qui doivent trouver là aussi leur chemin. Ça ouais, vous a inspiré de voir ça?
Ça m'a beaucoup émue de voir son départ, et j'ai regardé son décollage, comme j'avais vu d'ailleurs le décollage de quand Thomas Pesquet était doublure à l'époque. C'était au moment où il répétait son vol, et j'avais vu son atterrissage quand il était... Enfin oui, c'est un monde qui m'a vraiment passionnée, et je me rappelle, il y a l'astronaute russe Valentina Tereshkova qui disait qu'elle s'était maquillée, qu'elle avait mis du mascara de partir pour être belle, pour rencontrer les étoiles.
S'il y avait un rêve de petite fille ou de petit garçon à réaliser encore, ce serait lequel, justement? Sophie a de nouveau à réaliser le sien. Et vous, ce serait lequel, Alice?
Sûrement pas d'aller dans la station spatiale internationale, oui. Puisque moi, prendre un ascenseur est déjà très très compliqué pour moi.
Oui, ben non, alors.
Mais sinon, de continuer à faire des films, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau, en tout cas pour moi.
Et vous, Louis?
Et palpitant.
Ouais, et vous, Louis, un rêve de petit garçon?
Pas de cancer, voilà, c'est pas mal. J'aimerais même jamais avoir. J'aimerais bien pas avoir face à ça. Voilà.
Ça, c'est pas vraiment un rêve de petit garçon, on est d'accord. C'est,
non, vous mais je pas me considère petit, comme quoi. Un petit garçon, et quand j'entendais tout à l'heure Madame Moati qui nous racontait toutes les cancers, je me disais c'est difficile de vivre quand même.
Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Autre question, on cherche une série avortée, Unrecorded Night, qui était destinée à Netflix. Mais hélas, son créateur est décédé, mais vraisemblablement ses ayants droit cherchent à la publier, cette série, à titre posthume, le scénario en tout cas. De qui est-ce que
parce
je parle?
Parce que c'est pas encore tourné.
Non, okay. Non, il n'y a que le scénario. Il est mort il y a un peu plus d'un an, en janvier 2025.
Il est connu.
Il est très connu, c'est un Américain, et il a si je vous donne le casting pressenti pour cette série, vous allez trouver tout de suite, si je vous dis Laura Dern et Naomi Watts.
Bah, David Lynch.
Absolument, David Lynch, les enfants de David Lynch pensent à publier un de ses scénarios à titre posthume en espérant pouvoir peut-être le monter avec un casting déjà un petit peu pas complètement bouclé mais en tout cas annoncé. David Lynch qui a toujours filmé Los Angeles, qui voulait faire à nouveau une sorte de grande série comme Twin Peaks, encore une série fleuve avec beaucoup 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 d'épisodes, toujours sur ce rêve et ce cauchemar de la Cité des Anges. Peut-être que on aura l'occasion d'assister après coup à l'existence de cette nouvelle, ce nouveau feuilleton lynchien. Est-ce que vous avez des choses dans vos cartons, dans vos placards que vous n'avez pas encore exploité ou que vous n'osez pas exploiter, Louis?
Qu'est-ce que
des choses dans vos cartons, des scénarios, des textes, des choses qui pourraient donner lieu à, je sais pas, à être sorties, à être revues aujourd'hui?
Non, je crois pas.
Vous n'avez pas d'avance?
Non.
Vous n'avez pas des petites choses qui traînent?
Non, des trucs, mais si elles traînent, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes. Donc,
oui, il faut mieux qu'elles traînent. Vraiment. Ouais. Bon, on les oublie.
Ouais, exactement.
On les oublie, on les détruit au point de se dire comme ça, personne ne le publiera à titre posthume.
Voilà.
On ne fait pas confiance à ses enfants.
Non. On efface l'historique de l'ordinateur.
C'est bien connu, voilà, c'est ça. L'historique, attention, ouais, ça peut vous mener très très loin. Alice, est-ce que vous avez des choses comme ça?
C'est un film d'horreur, là.
Ah. Ouais, j'ai pas mal de...
Annonce-le.
Non. Si, c'est le moment.
Non, mais j'ai... Non, c'est vrai qu'il y a des scénarios en cours, on va dire.
C'est marrant parce que quand j'ai vu le film, je vois Garance Marillier qui se pique le doigt. Tout d'un coup, je pense à Grave de Julia Ducournau. Je vois ensuite le gore et le sang qui explosent à l'antenne. Je me dis, tiens, le genre gore ou l'horreur, en tout cas, ça irait bien à Alice Vénoucourt.
C'est toujours...
Ça...
Je vous remercie. Ouais.
Non, mais il y a les vampires aussi qui sont là.
Il y a les vampires.
On y est, ça on est déjà.
Bah, dans le premier film, Augustine, c'est vrai que je m'étais pas mal inspirée de l'exorcisme. C'était Evil Dead 2 qui m'avait inspirée, une personne qui se fait attaquer par sa main. Non, c'est sûr que ça m'a toujours intéressé l'horreur et donc
visiblement pas que ça. Dans les projets Louis Garrel, vous serez à l'affiche de Juste une illusion, c'est ça? Ça sortira en avril prochain?
Oui, 15 avril.
Éric Toledano, Olivier Nakache, oui, la sortie a été modifiée.
Avancée,
le passage de l'enfance à l'âge adulte. Comment on peut pitcher le...
C'est une chronique qui est menée par un petit garçon de 13 ans qui va faire sa bar mitzvah, et c'est les années 80, le chômage de masse, un père qui est au chômage, qui le cache à tout le monde, en fait tout le monde le sait, c'est vraiment une espèce de c'est leur vie ou c'est leur enfance, mais c'est vraiment, vraiment très
avec
bien.
Camille Cotin, Pierre Lottin et donc Louis Garrel. Voici Emma Beaujean et Emma Beaujean. Bravo.
Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à la danse. Allez, tout le monde bouge là dans le studio. Allez, on te l'a fait avec ce jean rouge là qui te fait un petit cul de prestagiana. Oula, pardon, je me suis un petit peu emballée. Et peut-être pas le meilleur choix de chanson, puisque Nagui et Leïla sont présentement debout sur la table. Excusez-moi, c'est le kermesse, c'est absurde ce que je viens de faire. Désolée, j'ai vraiment pris la confiance. Allez, stop. Alors, je voulais dire excusez-moi, je suis vraiment très gênée. Je voulais parler de la danse, parce que moi j'en ai fait pas mal. Voilà, sachez-le, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai fait pas mal de danse. La liste est longue, j'ai fait de la danse classique. J'ai fait du modern jazz. Pardon, en fait c'est insupportable la régie en fait ce qui se passe. Vous allez envoyer un nouveau style à chaque fois que je parle de nouvelle danse, c'est une dinguerie de faire ça. Vas-y des claquettes maintenant, tu vas faire quoi? Ok, ça me parle. De la danse indienne, j'ai fait de la danse indienne, vas-y, assume. Alors, c'est super raciste. C'est pas du tout ça qu'on mettait. C'est une dinguerie. Ok, j'ai fait de la danse contemporaine également. Tu vas faire quoi maintenant? Ah ben voilà. Non mais ça n'a rien à voir, ça. C'est absurde. Pas du tout. Ok, attends, je te teste une dernière fois. Et de la danse de salon? J'ai fait de la danse de salon. Il y a quelqu'un maintenant? Eh non, pas de la danse de saloon. Wouh! C'est une catastrophe. Arrêtons-nous là, je vous en supplie. Arrêtons tout ça. Surtout qu'on dansera ce soir. Ce sera le chaos ce soir pour l'anniversaire de notre Tanguy. Moi, j'ai arrêté la danse parce que comme cette chronique, c'est très humiliant. Quand tu crois que tu es à 100% et puis tu regardes la vidéo de toi qui danse et on dirait que tu n'as même pas commencé le mouvement tellement ton corps est mou. Je suis sûre que ça te fait la même chose, Nagui, quand tu revois tes matchs de paddle contre Michel Simès. Et puis, récemment, j'ai fait un nouveau truc encore plus humiliant. J'ai commencé la pole dance. C'est un massacre. On dirait un kebab qui tourne. C'est affreux, c'est affreux. Après, la danse, ça sert toujours, mais pour draguer en boîte. Mais pardon, mais qui danse en boîte? Je veux dire, à part Daniel Morin. Daniel Morin qui arrive en disco, chemise en lin, manche remontée, aux avant-bras, baby cola paille dans la main droite, des cartes avec son number dans la main gauche pour les distribuer aux gonzesses. Les mots ont un poids. Mais à part notre Danito national et ses potes de l'amicale des baiseurs de Sylvie, qui va en boîte? C'est vrai, moi, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais 17 ans. Et il rigole parce qu'il sait que c'est vrai. Je déteste ça. Il y a tellement de conventions sociales de drague en plus. Moi, pour pécho, je vous cache pas, j'ai toujours tout misé sur l'humour. Il y avait un indice physiquement. Et parce que si j'essaye de me taire d'avoir un regard mystérieux, c'est une catastrophe. On dirait juste que je vais lâcher une caisse, en fait. Et je me dis, t'as beau faire toutes les heures et toutes les compètes de danse que tu veux, si c'est pas des trucs qui passent en boîte, ça sert à rien. C'est vrai. On n'a jamais vu un pas de bourré sur du Sosomanes. 3, 4 et nique ta mère sur la canne bière 5, 6, reviens et nique tes morts. Attitude et portée. 3, 4 sur le vieux port. Et puis, la danse n'a fait qu'accentuer mes complexes, personnellement. Ma prof de danse, quand j'étais au lycée, elle m'appelait la molaire, tout bonnement, quand j'étais la grosse du fond. Et tu vois, c'est trop absurde, ces profs de danse, la prête à tout, qui attendent toute l'année le gala de danse, qui parle à des enfants de 9 ans déguisés en papillon comme au calife des JO. Annabelle, regarde-moi dans les yeux, Annabelle. Annabelle, c'est la dernière fois que tu me fais un coup comme ça, 3 mois du show. Mais maîtresse, je devais garder mon frère parce que ma mère, elle devait faire des analyses pour son fibrome. Je ne veux pas savoir, Annabelle. Tu es un papillon, alors vole de tes propres ailes. Et depuis que perso, j'ai arrêté de prendre des cours et des coups de pression, maintenant je danse. Je danse mal, mais sincèrement, comme beaucoup de choses, moi j'ai l'intime conviction que si c'est fait avec le cœur, et ben alors ça peut pas être fait avec le cerveau. C'est à ça que je rends hommage. Merci de m'avoir écouté.
Merci. Bravo.
Et ben bonjour après-demain, c'est tous les mardis au Théâtre sur le Pic, c'est à Paris à 19h.
Au cinéma aujourd'hui, Couture, Angelina Jolie, Louis Garrel sont à l'affiche du film d'Alice Vinocourt avec également Annie Ranney, Ella Rumpf et Vincent Lindon entre autres. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bah déjà désolé pour toutes les Sylvie que j'ai pas rappelées. Pardon, désolé. Enfin pour John Travolta, Matt Dillon, Catherine Ringer et Esther Garrel, votre petite sœur Louis, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qu'on n'a pas célébré 35 ans, Esther. Heureusement que je suis là. Alors, bon anniversaire, John, Matt, Catherine et Esther, évidemment.
Et Daniel sera sur scène le 6 mars à Langon. Ouais, le 6 mars.
Donc, merci.
On a un petit moment de solitude, là.
Oui, ce sentiment. Merci, Alice Vinocourt.
Merci beaucoup pour cette invitation. Ouais, bravo.
Merci, Louis Garrel. Bisous à votre sœur. Et demain, c'est Mazarine Pinjou qui sera notre...
Bon anniversaire, Esther.
Tout de suite, les carnets de campagne, Dorothée Barba, bonjour.
Bonjour tout le monde, on respire un grand coup.
Oui.
On parle aujourd'hui du dentiste, de la peur du dentiste.
Ah non.
Ça peut être une peur panique. Un livre pour enfants est là pour dédramatiser le soin dentaire. Voilà, un précieux bouquin pour enfants, c'est horrible ce bruit.
Oui. Oh, de la fac.
Bonne émission, Dorothée.
Merci, à demain.